Dans cette vidéo, nous allons parler des politiques de la ville en direction des banlieues. Dans les métropoles occidentales, la concentration de la pauvreté dans les quartiers d'habitat social qu'on observe depuis les années 80, sans que le processus ait été enrayé, fait figure d'échec des politiques de logement social. Le ghetto américain, la question des quartiers sensibles en France, fonctionne comme autant de grandes figures du mal urbain contemporain. Derrière ce diagnostic, un ensemble d'effets sociaux engendrés par les concentrations de pauvreté qui a été formalisé dans la littérature américaine sous le terme d'effet de quartier. Alors, la concentration de pauvreté aurait un effet aggravant dans la mesure où elle contribuerait à accentuer les effets psychologiques et sociaux d'enfermement et dans la mesure où elle contribuerait à disqualifier les équipements et les services locaux. Au contraire, un environnement socialement mixte permettrait aux plus défavorisés de bénéficier d'effets d'entraînement et également leur donnerait un meilleur accès aux ressources urbaines et à des équipements de meilleure qualité. Cette interprétation des concentrations spatiales de pauvreté justifie de défendre l'objectif de mixité sociale qui est au cœur de la politique de la ville en France et de ses équivalents aux États-Unis, en Angleterre ou encore en Allemagne. Ces politiques urbaines, spécialement conçues en direction des quartiers en difficulté, bien souvent des quartiers d'habitat social, sont assez originales. Elles sont transversales dans la mesure où elles croisent le champ du social, de l'urbanisme, mais également de la sécurité et de l'emploi. Et elles sont territoriales, elles visent avant tout un quartier, elles ciblent un quartier. Alors, un détour par la politique de la ville à la française va nous permettre de saisir toutes les ambiguïtés de tels programmes et également nous interroger sur la place des quartiers populaires dans les espaces métropolitains. Alors, pauvreté, habitat social, politique de la ville, rénovation urbaine, de quoi parle-t-on? On peut donner l'impression de passer d'un terme à l'autre, mais ce champ lexical très large renvoie en réalité au champ également très large, fluctuant, couvert par la politique de la ville, champ dont la définition varie selon qu'on s'attache aux objectifs politiques de la politique de la ville, aux critères de définition aux critères de définition des quartiers ou encore aux critères d'évaluation qui ont pu être faits de la politique de la ville. En 2017, la politique de la ville, c'est environ 700 communes, 1300 quartiers prioritaires en métropole, 200 quartiers en rénovation urbaine, 5 milliards d'euros de subventions de l'ANRU, de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Ces quelques chiffres sont tirés du dossier de presse qui a été diffusé au moment où a été publiée la nouvelle carte de la géographie prioritaire de la politique de la ville qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2015. Une nouvelle carte s'est effectivement substituée au zonage précédent en zone urbaine sensible qui avait été défini dans le cadre du pacte de relance de 1996. Alors, ces 1300 quartiers ont été définis suivant un double critère, celui du revenu des ménages résidents d'une part et également celui de la taille des quartiers. Qu'est-ce qui est visé à travers ce zonage? Finalement, ce n'est pas uniquement la pauvreté des ménages. Si on observe avec attention ce document officiel de présentation des quartiers prioritaires, il est fait référence à la part des étrangers, la part de la population des moins de 14 ans, le taux de scolarisation des 16-24 ans, la part des emplois précaires, la part des familles monoparentales également. Pas un mot sur la pauvreté des ménages, ni sur leurs faibles ressources. On touche ici à une première ambiguïté de la politique de la ville, à une grande difficulté d'ailleurs de l'évaluation de cette politique publique. Ce n'est pas une politique sociale classique, ce n'est pas non plus une politique urbaine classique. Est-ce que finalement on doit l'évaluer au regard de la trajectoire des quartiers ou au regard de la trajectoire des ménages? La mise en œuvre de la politique de la ville procède par l'identification de quartiers cumulant des difficultés sociales et urbanistiques. Mais l'action qui est menée dans ces quartiers vise-t-elle à améliorer les conditions de vie des habitants, qu'ils y restent ou qu'ils y partent finalement? ou bien est-ce qu'elle vise à modifier l'image et le profil social du quartier? Autrement dit, la politique de la ville se donne-t-elle pour objectif d'éradiquer les concentrations spatiales de précarité ou de lutter contre la précarité elle-même? Est-ce qu'elle vise l'intégration des territoires ou est-ce qu'elle vise l'intégration des personnes? On retrouve ici les ambiguïtés d'une politique de rénovation urbaine qu'on avait observée dans un tout autre contexte à Mumbai lorsqu'on s'était intéressé à la réhabilitation des bidonvilles au centre de la ville. Alors, deuxième ambivalence de la politique de la ville, eh bien, ce sont ces deux volets, le volet social et le volet urbain. Durant les premières expérimentations des années 1960, fin des années 70, les expérimentations habitat et vie sociale, la politique de la ville s'était plutôt construite comme une politique sociale, puis comme une politique économique avec les zones franches urbaines lors du pacte de relance pour la ville de 1996, plus ou moins articulée à des opérations sur le bâti. La fin des années 90 marque véritablement un tournant dans la politique de la ville en France en faveur du volet urbain. Au nom du mot d'ordre de mixité sociale, le plan de rénovation urbaine, le plan Borloo, intervient directement sur l'offre de logement à travers plusieurs leviers. Le premier, classique, c'est la réhabilitation de l'existant. Le deuxième, très important au cours du plan Borloo, c'est la démolition et la reconstruction du parc social. Alors, suivant un modèle complètement différent de celui qui lui avait prévalu au cours des années 60-70, sur cette photographie qui a été prise à Montereau-Fotionne, donc au niveau de la ZUP de Surville, au lieu de la politique de la ville en Île-de-France, on perçoit la reconstruction, la nouvelle offre de logement qui est effectivement rupture totale avec le modèle des années 60. Aujourd'hui, on propose des maisons de ville avec une entrée individuelle, un espace résidentiel fermé et une vidéo-surveillance quasi systématisée. En arrière-plan, on distingue encore une barre qui est d'ailleurs vouée à la démolition. Le troisième volet du plan Borloo, c'est une diversification de l'offre par le développement du secteur libre et de l'accession sociale à la propriété. On fait ici appel à la promotion privée, c'est sur elle en effet que repose la diversification du parc. Alors, troisième ambivalence de la politique de la ville, l'échelle. À quelle échelle cette politique de la ville doit-elle être mise en œuvre? Dans le dossier de presse de 2015, il est dit clairement que la politique de la ville était une politique contractuelle entre une communauté d'agglomération et l'État. Cet échelon communal ou intercommunal s'est imposé progressivement. Pour commencer, lors des premiers contrats de ville de 1995, il est passé au deuxième plan au cours de la grande période de rénovation urbaine 2003-2015, qui était davantage centrée sur le périmètre du quartier. Le contrat de ville semble revenir au premier plan dans le dossier de presse de 2015, dans une version un peu différente toutefois de celle des contrats de ville du début des années 90. Les contrats de ville, version 2015, sont obligatoirement portés par des EPCI. C'est un élément important. Concrètement, ce ne sont plus les équipes municipales qui portent les projets, qui les négocient avec l'État, mais ce sont les chefs de projet des communautés d'agglomération, ce qui n'est pas forcément simple sur le terrain. D'autant plus que les communautés d'agglo font de plus en plus appel à des bureaux d'études privés pour monter les dossiers, pour enregistrer également la parole des habitants. On a là un deuxième vecteur à travers le montage des contrats de ville, un deuxième vecteur d'intervention finalement des acteurs privés dans la mise en œuvre de cette politique publique. Alors, quel bilan faire de la politique de la ville? Il est vrai que les écarts entre les quartiers prioritaires et le reste de la ville ne se sont pas résorbés. Pour autant, comment attendre d'intervention sur le bâti la résolution de difficultés d'accès à l'emploi qui sont avant tout liées au chômage de masse tel qu'il s'est installé en France depuis 30 ans? Deuxièmement, l'objectif de mixité sociale n'a pas été réalisé. Il est vrai que les promoteurs se sont montrés frileux quant à l'investissement dans les quartiers prioritaires et que les prétendants au programme d'accession à la propriété aidée ont davantage été des ménages solvables, originaires du quartier plutôt qu'en provenance de l'extérieur. Autrement dit, Ces programmes d'accession à la propriété ont été assez peu attractifs vis-à-vis de ménages qui proviendraient d'ailleurs. Alors, les fondements même de la politique de la ville seraient-ils à revoir? En tout cas, le mot d'ordre de mixité est très critiqué dans la communauté scientifique qui souligne à juste titre les ressources de la proximité et de l'entourage pour les catégories les plus populaires qui seraient mises à mal dans les opérations de relogement. La communauté scientifique souligne également, et à juste titre également, les dérives de ce mot d'ordre lorsqu'il conduit les organismes HLM à filtrer les demandes, filtrage qui est toujours défavorable aux plus démunis et qui contribue à réduire encore le parc de logements qui leur est accessible. Toutefois, d'autres arguments à l'encontre de la mixité sociale apparaissent moins recevables. Par exemple, on souligne que les programmes menés aux États-Unis pour encourager la mobilité des plus pauvres ont eu peu d'effet au final sur les trajectoires scolaires et professionnelles. Mais ce serait oublier que ces solidarités locales, soulignées par les chercheurs, que les ressources de la proximité peuvent tout à fait se déployer simultanément à des processus de dépossession symbolique tels que les avait formulés Bourdieu. Au total, s'il convient d'être vigilant quant aux instrumentalisations de l'objectif de mixité sociale, il n'en reste pas moins que la concentration de la pauvreté pose problème et renvoie au miroir aux concentrations de richesses. Dans les deux cas, ces spécialisations socio-spatiales, comme disent les géographes, posent la question de la mise en œuvre de la solidarité à l'échelle des individus comme à celle des territoires. Thank you.